France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un écrivain, journaliste au verbe haut, à la plume tranchante, éditorialiste au point qu'il dirigea longtemps. Il publie Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour, c'est aux presses de la Cité. Vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000. Franz-Olivier Gisbert, bonjour.
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 Et merci d'être sur Inter. Votre livre, c'est le portrait d'un personnage de roman français, un autodidacte inclassable qui aura a eu plusieurs vies dans les affaires, le foot, le vélo, la télé, le théâtre, la politique et qui est aussi passé par la case prison. Aujourd'hui, il lutte contre le cancer et à vous lire, il lutte avec la même énergie, le même acharnement qu'il a déployé toute sa vie. Vous cherchez au fil des conversations que vous avez ensemble ce qui fait l'unité de cet homme. Le ton est souvent cash, on a parfois l'impression de lire des dialogues d'Audiard, on va y venir. Mais dites-nous pour commencer, pourquoi Tapie ? D'où vient chez vous la fascination que vous éprouvé pour lui ?
Je suis pas tapiste au départ. Moi, j'ai connu Tapie dans les années 90. C'est François Mitterrand, qui était président de la République à l'époque. J'avais des hauts et des bas avec lui, d'ailleurs. Et qui me dit, tiens, vous devriez voir. C'était comme si c'était sa dernière trouvaille. J'ai un nouveau ministre de la ville. Vous devriez le voir. Il est très, très bien, Tapie. Alors, bon, faut bien voir. J'étais déjà fasciné par Marseille, j'ai passé beaucoup de temps, j'étais partisan de l'OM, enfin tout ça. Donc j'adore le vélo, donc évidemment, toute la saga avec Bernard Hinault, avec Tapie, évidemment, je connaissais Tapie. Mm-hmm. Mais j'étais pas dans ces journalistes de cours, là, vous savez, qui me suivaient partout, qui allaient suivre les matchs, etc., qui étaient invités, j'étais totalement dehors de tout ça. Et en fait, des différents journaux que j'ai dirigés, que ce soit le Nouvel Observateur, le Figaro, j'avais souvent des problèmes avec lui, on a eu des hauts, des bas, je crois qu'il est venu dîner quand même une fois à la maison, mais il y avait aussi beaucoup de bas. Et puis, en fait, c'est au moment du... vous savez, quand il y a eu l'arbitrage dit frauduleux...
L'affaire Crédit Lyonnais.
Eh ben oui, cette Adidas histoire de fou, c'est-à-dire qu'il est grugé par le Crédit Lyonnais dans la vente d'Adidas, mais il est grugé de beaucoup, c'est pas seulement 2 milliards. C'est-à-dire que faut bien voir, quand vous regardez les faits, tout est dans le livre, il y a des... Eh ben, c'est 2 milliards, mais c'est beaucoup plus. Parce que, vous savez, cette société... Il l'a vendu soi-disant 2 milliards au Crédit Lyonnais, qu'il a acheté lui-même et qu'il a revendu tout ça avec des prête-noms, des trucs, etc. Qu'il a revendu 4 milliards et en plus ça vaut beaucoup cher. Bon,
on va pas refaire le feuilleton judiciaire.
Attendez, je réponds à sa question.
C'est sur la fascination.
Oui, oui. Bah, la fascination, c'est ça. C'est-à-dire brusquement, elle arrive là. Le type est par terre et attaqué de toutes parts. Et je découvre en fait que c'est une énorme arnaque. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me retourne. Et je suis choqué. D'ailleurs, il y a des gens qui s'en souviennent très bien au point à l'époque. Il y a même eu des engueulades, enfin, disons, même presque un peu plus que des engueulades sur la question, parce que je dis, mais attendez, c'est pas possible. Je suis pas le seul journaliste qui bascule à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, je vais vers lui et je regarde. Et c'est vrai que j'ai... c'est ça le portrait, vous l'avez bien fait. C'est un monstre d'énergie. Mais d'une énergie comme on n'imagine pas. Il y a quelque chose de totalement surnaturel quand vous pensez que là, avec son cancer, il ne prend pas d'antidouleur. Mais qui peut faire ça? Il ne prend pas d'antidouleur. Il y a une scène je raconte au début, que son fils Laurent qui m'a raconté. Il est allé le voir à l'hôpital après son opération.
Qui a duré plusieurs heures.
Oui, une opération, réanimation, etc. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son père en train de faire des pompes. Mais c'est ça.
C'est ça qui vous a fasciné, son énergie, son appétit de vivre, le côté surhomme de Tapie?
Ah, c'est ça, mais c'est complètement ça, puisque, si vous voulez, moi, je suis, comment dire, ouais, je suis très attaché à la philosophie romaine, Sénèque, vous savez, le côté, si tu, par exemple, cette grande phrase de Sénèque sur la vie qui court, vous savez, il y a 1000 phrases, hâte-toi de vivre et vis chaque jour comme si c'était une journée en soi, enfin, toutes ces phrases-là, ce sont des morales de vie. Et lui, si vous voulez, c'est ça. Vous savez, il y a une espèce de proverbe qui dit que le bonheur,
bonheur
serait au bout de... Non, c'est une façon de dire pourquoi il fascine. Vous voyez, pourquoi il fascine, il bouleverse aussi des gens comme moi. Et je suis pas tout seul. Je remarque la France entière. C'est-à-dire, elle n'en revient pas. L'énergie est là. Et il trouve encore le moyen quand il se fait attaquer. Alors que franchement, il est faible, très faible. Quand il se fait attaquer avec sa femme,
et quand, là, récemment,
les racailles des quartiers s'acharnent sur sa femme, il trouve encore le moyen de... d'insulter, d'engueuler les racailles qui s'acharnent sur sa femme.
Mais on entend votre fascination pour l'homme, pour son talent, pour la personnalité hors norme, et on peut le comprendre et on peut le partager. C'est sans doute pour ça aussi que Tapie est aimé et qu'il fascine autant. Mais quand même, il a été condamné à de multiples reprises, traîné devant la justice, le match truqué Valenciennes-OM, le fossé à les comptes de l'OM, l'affaire Adidas Crédit Lyonnais qui dure et le feuilleton judiciaire dure encore. C'est pas Dreyfus, c'est pas le Christ, Tapie.
J'ai jamais dit ça.
Vous dites
que je ne suis pas Zola et qu'il n'est pas Dreyfus.
Vous dites ça, mais vous dites, Tapie prenait avec l'affaire du Crédit Lyonnais une dimension, qu'on me pardonne ce sacrilège, christique. Là, est-ce que vous n'êtes pas légèrement excessif dans votre fascination?
Vous savez, dans des livres, quand on écrit un livre comme ça, forcément, par moment, on est excessif, puisque j'ai pris un parti pris littéraire. Moi, j'ai toujours été fasciné, quand j'étais jeune journaliste, par les journalistes écrivains, Norman Mailer, que j'ai connu très bien d'ailleurs, Tom Wolfe, qui me fascinait, que j'ai connu également. On en avait un à la maison, à l'Observateur à l'époque, c'était François Caviglioli, qui était un immense, comme ça, qui la catégorie des journalistes écrivains. Donc, quand vous êtes comme ça, forcément, de temps en temps, vous allez un petit peu plus loin. Il y avait un qui était dément, qui était Hunter Thompson, là, qui interviewait...
Le Gonzo journaliste, c'est-à-dire la mise en scène du journaliste dans l'enquête.
Qui est toujours un peu ridicule, vous voyez, qui était toujours super drogué quand il s'est entouré de Nixon.
Pas du tout.
Au contraire, je dis que je ne suis pas ni Voltaire, ni Zola.
Vous prenez précautions.
Non, ce ne sont pas des précautions.
Des dénégations.
Non. Moi, je raconte une tranche de vie. Je raconte des tranches de vie, c'est-à-dire je suis fasciné par la vie, les mille vies, cette personne comme ça qui sort d'un taudis. Mais c'est un roman, vous l'avez dit vous-même. C'est un roman d'aventure. C'est-à-dire ça commence dans un taudis de 20 mètres carrés. Ils sont à quatre. Il y a une bassine où on se lave comme ça ensemble. Enfin, il y a pas de place, quoi. C'est bon. Ils adoptent un petit Renardo d'ailleurs. Vous voyez un peu le genre de dans un taudis dans la Seine-Saint-Denis. C'est ça le début de l'histoire. Et il va sortir de là. Il va sortir de là d'ailleurs grâce au service militaire qu'on a su. Primé depuis. Grâce au service militaire, il découvre, parce qu'il est finalement, on le met chez les officiers, il découvre que finalement les gens de la haute, ils sont pas plus intelligents que lui, il peut peut-être y arriver. Et là, il y a quelque chose qui change dans sa tête. Et il dit, voilà, il est dernier de cordée, il va passer au-dessus de tout le monde, il sera premier de cordée. C'est ça l'histoire de Tapie. Et après, moi, ce qui me fascine, c'est il va dans différents univers, chaque fois on vient le chercher, c'est pas lui qui dit, je vais, l'OM, alors je vois des pseudo-biographes, mais moi je connaissais bien Edmond de Charleroux et Gaston Defer, bon, c'est très bien comment c'est passé. C'est eux qui l'ont fait venir. Ils lui ont dit, viens. Même chose, c'est Bernard Hinault. Il est dans son équipe, personne ne veut plus de lui. Il a Cyril Guimard n'en en peut plus parce qu'il a une tendinite, c'est affreux. Et il vient voir Tapie, vous ne pourriez pas faire une équipe. Il l'a fait, il gagne le Tour de France l'année suivante. Hein, et ce sera la dernière fois qu'un Français va gagner le Tour de France. C'est Bernard Hinault qui va gagner son Tour de France en 1985.
Il reconnaît, vous l'écrivez, il reconnaît lui-même des erreurs. J'ai accumulé les conneries. C'est sûr, j'ai trop affiché mon bonheur. Par exemple, chez nous, on déteste l'argent des autres, leur pouvoir, leur gloire. Alors quand on ne respecte pas l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés », on s'expose à toutes sortes de vilainistes. L'argent, c'est quelque chose qui revient souvent. D'ailleurs, vous lui dites « t'aimes trop le fric ». Il n'aime pas ça, d'ailleurs, quand vous lui dites ça.
Ah non, mais il n'aime pas ça. Mais de toute façon, là, c'était compliqué, vous pensez bien, parce que bon, j'ai ma personnalité, il a la sienne. Et bon, moi, j'ai une petite personnalité à côté de la sienne, si vous voyez ce que je veux dire. Même si
vous en avez quand
même une. Je suis écrivain, mais je suis différent. Je suis pas, j'ai pas du tout la
même
logique.
Donc ça a été dur. L'écriture de ce livre.
Oui,
entre
forcément,
vous deux.
Mais avec lui, tout est dur. Tout est dur parce que ça tourne vite au match et parfois même au catch. Vous voyez, c'est normal.
Ouais,
mais ça, si on supporte bien, si on répond, ça va très bien. Vous voyez ce que je veux dire?
Avec Léa, Franz-Olivier Gisbert, nous avons compté 12 occurrences du mot couille dans votre livre. 11 occurrences dans la bouche de Bernard Tapie.
J'ai dû en enlever.
Hein, vous avez dû en enlever, mais il en reste 12. Et une dans votre bouche à vous. Je cite Bernard Tapie. Si moi je veux parler sans grossièreté, je peux le faire, mais ça paraîtra aussi naturel que si Giscard disait j'en ai plein les couilles. Voilà, fin de citation. Est-ce ainsi que les hommes blancs de plus de 70 ans parlent, Franz-Olivier Gisbert?
Vous savez, quand vous passez derrière la fenêtre et que vous allez par exemple parler à Chirac. Chirac parlait comme un Chartier. De Gaulle aussi, de temps en temps, il y avait des accès comme ça. Je veux dire, c'est pas vraiment un problème. Moi, je restitue la parole telle qu'elle est. telle qu'elle est. J'ai pas, je vois pas pourquoi j'habillerais les choses. Il y a plein de gens qui parlent comme ça. Moi, j'essaye de faire un livre vrai. Vous voyez, j'ai pas, c'est pas un livre journalistique. C'est pas quelque chose. C'est pas un livre à sa gloire. C'est une tranche de vie, comme je le dis. C'est vraiment pour faire vivre quelqu'un. Et puis surtout aussi donner des leçons. Ça s'appelle pas pour rien d'ailleurs leçon de vie de mort et d'amour, parce que c'est quelqu'un qui a plein de leçons en fin de vie, notamment par exemple sur le fait de pas prendre d'antidouleur quand on souffre à mort.
Pourquoi qu'est-ce qui vous répond quand vous lui posez la question?
C'est pour affronter la douleur et puis se dire aussi qu'il faut faire marcher ces glandes surrénales qui sont derrière. Au lieu de prendre pour un oui ou pour un non un doliprane, vous avez des glandes surrénales qui... moi j'ai eu un gros accident du genou il y a quelques années. Je me souviens très bien qu'au bout de 20 minutes, je ne souffrais plus. Parce que le corps agit et puis voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça, il le sait. Donc il gère tout. Il contrôle tout. Et c'est moi, c'est vrai que la guerre face à la maladie, c'est juste dingue. Vous savez que... comme il est aujourd'hui, il est quand même très affaibli. Il fait ce qu'il appelle des escaliers, c'est-à-dire il monte, il descend les escaliers comme ça. On voit pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, moi, c'est ça qui m'a fasciné et bouleversé.
Ouais, et bouleversé aussi. Et on le découvre dans votre livre, c'est le tapis chrétien. Sans doute, on l'imaginerait pas. Il est chrétien, il est croyant, il prie, il vous le dit. Quelle relation entretient-il avec la foi, avec la mort? Qu'est-ce qu'il vous dit tout cela?
Alors ça, c'est des choses qui sont apparues peu à peu, parce que faire un livre avec Tapie, c'est très compliqué, parce qu'il répond pas aux questions personnelles. Il considère à chaque fois que c'est une agression. Donc il est très énervé. Donc les questions, par exemple, sur la foi, je veux dire, c'est pas une fois. Je ne cache pas que c'est...
au fil de conversation.
Voilà, différentes conversations. Je suis moi-même croyant, mais pas du tout de la même façon. Donc d'ailleurs, il supporte pas ma façon de croire. Moi, je suis croyant panthéiste, spinoziste, mais je suis croyant. Je crois en Dieu, mais un Dieu qui est partout. Lui, c'est vrai qu'il a une vision un peu différente et il prie tous les soirs. Et il prie parfois 5 minutes, parfois 1/2, parfois davantage. C'est-à-dire, il parle, il écoute, comme les vrais croyants. Mais ça, il le fait depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est ça qui est fascinant. Et il a 1000 cartes. Moi, ce que je trouve, par exemple, incroyable, c'est qu'à un moment donné, quand il est gosse, voilà, il est dans son petit Audi et il essaye d'en sortir déjà. Et il va faire du violon. Et il va devenir un très bon violoniste puisqu'il va décrocher un prix. C'est ça la vie de Tapie. C'est, vous voyez, toujours l'idée de voilà sortir, ouais, monter,
transcender.
Transcender.
Et puis il y a l'amour des animaux qui vous rapproche tous
les
deux.
Ah oui, ça beaucoup. Oui.
On sait, François-Olivier Gisbert, que c'est votre grand combat. Qu'est-ce qui se joue là entre vous deux?
Moi, c'est vrai que j'aime bien les gens qui aiment les animaux. Alors moi, je suis un petit peu différent. Je reprendrai la phrase toujours de Georges Bernard Shaw. J'aime les animaux et je ne mange pas les gens que j'aime, quoi. C'est-à-dire Georges Bernard Shaw, voilà, il mangeait pas de viande et moi non plus. Mais c'est vrai qu'il a l'idée, vous voyez, que je vois par exemple une histoire magnifique, c'est l'histoire des chiens. Son chien, Boboy, quand il tombe malade, son chien qui est un énorme corso, c'est des grands chiens, vous savez, énormes, et son chien s'occupe de lui. C'est-à-dire, son chien qui était plutôt attaché à sa femme, là, s'intéresse à lui et dort avec lui, et se couche sur lui pour essayer de pomper peut-être la souffrance, lui apporter l'énergie. Bon, voilà. Donc il a ce rapport assez très, je dirais presque animal avec les animaux, que moi je comprends très bien parce que j'ai le même.
Allez, on file au standard. Benjamin, ouais. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Nicolas Delamorant, bonjour Salamé, bonjour Monsieur Gisbert. N'est-il pas un peu indécent de célébrer les leçons de vie d'un type qui a passé sa vie à être condamné pour différentes escroqueries et malversations et dont aujourd'hui vous essayez de nous faire passer pour François d'Assise?
Merci Benjamin. Alors, pour cette question.
Il y a pas mal de réactions comme ça.
Je vous les lis.
C'est normal. Hein. Ouais, Bertrand, c'est fou cette fascination française pour les escrocs. Constant, je ne savais pas qu'il était l'avocat de Tapie. Fouljo, comment peut-on imaginer de rendre hommage à quelqu'un qui s'est comporté comme un liquidateur d'entreprise pour l'entreprise Testu notamment? Vous répondez quoi à cela?
C'est plus compliqué. C'est-à-dire que vous regardez bien toutes les entreprises qu'il a achetées, et il les a achetées 1 euro. Et s'il les avait pas achetées, elles auraient fermé. Quand vous regardez la vie des entreprises après, elles ont toutes survécu, sauf deux. Toutes. C'est énormément. D'habitude, en général, elles disparaissent. Hein. C'est toujours très compliqué de sauver. Il les a sauvées. Il les a sauvées toujours avec les mêmes méthodes que j'explique dans le livre. C'est juste incroyable. Ça a marché. Donc, vous voyez, le décrire uniquement comme un liquidateur d'entreprise. Non, d'ailleurs, bon, parfois les entreprises ont changé de nom. C'est vrai que Wander n'existe plus, mais c'est un autre nom aujourd'hui. C'est-à-dire, les emplois sont restés. Donc, on peut pas caricaturer. Après, c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'ennuis avec la justice. Moi, je renvoie quand même ce cher monsieur sur la relaxe en 2019. Il y a un tribunal de grande instance de Paris qui, au pénal, l'a relaxé. Donc il a gagné quand même un grand nombre de procès. Regardez d'ailleurs, quand il est ministre, comme par hasard, le ministre de la ville de Mitterrand, il y a un nombre de d'enquêtes judiciaires qui tombent dessus.
Vous dites que c'est la politique qui l'a tué.
Oui, je pense, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il rentre en politique, ça devient très compliqué, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a une espèce de dialogue avec Berlusconi qui lui dit pourquoi tu prends des étapes ? Vas-y tout droit, moi j'y vais tout droit, sinon le système va me... Et c'est ça ce qui est intéressant chez lui. Je veux pas en faire Saint-François d'Assise, c'est grotesque. D'ailleurs, personne n'est Saint-François d'Assise. Hein. Et c'est juste que c'est, comment dire, comment on tient face au système, face à ce qu'on pourrait appeler les monstres froids de l'État, c'est-à-dire la justice, les médias. Attends, les médias, il en a pris plein la gueule quand même pendant des années.
Il a été les deux. Il a fasciné les médias. Les médias se damnaient pour avoir tapis parce qu'il fait de l'audience.
Voilà. Non, bien sûr. Puis à un moment donné, ça s'est retourné très violemment, mais comme toujours, souvent avec les médias.
Et là, ça s'est à nouveau retourné.
Oui, bien sûr. Mais ça, parce que c'est le principe. Mais ça a été quand même extrêmement violent. Et je pense qu'il a vécu ça d'ailleurs très mal. Même s'il dit le contraire, je pense qu'il vit ça très mal. Il vivait ça très mal.
Le système, ça revient tout le temps chez vous dans l'écriture du livre. Oui. Vous tapiez contre le système. Le système, c'est qui, François-Olivier Gisbert?
C'est facile.
C'est vous aussi, non?
Bien sûr.
Mais attendez, j'ai pas dit d'accord, contraire. Parce que j'ai l'impression que c'était, on s'est dit avec Nicolas, le type qui a quand même dirigé Le Figaro, l'Obs et Le Point.
Bien entendu.
À une époque où la presse avait tellement plus d'influence qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Vous êtes un peu.
Bon, elle a toujours de l'influence,
Vous êtes le roi du royaume du système.
J'étais toujours un petit peu quand même marginal. Je suis désolé de vous le dire. On n'a pas tout à fait le même âge. Je suis quand même dans le système depuis très très longtemps. J'ai toujours été un petit peu à côté. Et peut-être contrairement à beaucoup de confrères, surtout aujourd'hui, parce que je trouve que ça a changé le climat, je suis beaucoup toujours dans la contradiction. C'est-à-dire que j'ai toujours veillé à ce que s'expriment, par exemple, dans les journaux que j'ai dirigés, des gens qui pensent le contraire à la fois de la ligne du journal, le contraire de moi-même. Et je pense qu'il y a toujours une part de vérité chez les autres, dans le camp d'en face. Ça a toujours été ma ligne. Alors, il y a des belles pages de la philosophie Simone Veil avec un W là-dessus que j'adore, et c'est-à-dire il faut toujours chercher la vérité.
Penser contre soi-même,
ouais. Ça, vous avez, c'est la bonne formule, ça a toujours été la mienne.
Et puis vous en profitez, François-Olivier Gisbert, pour régler quelques comptes avec vos ennemis, en l'occurrence le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, et ce que vous appelez la médiapartisation des esprits. Qu'est-ce qu'il vous a fait pour susciter cette ire? Pourquoi cette virulence à son égard, voire cette haine?
Mais qu'est-ce que lui ont fait tous ces gens qu'il attaquait, que son journal ou que ses journaux ont attaqué si violemment? Qu'est-ce que lui a fait, par exemple, Dominique Baudis, qui a été sali? C'était répugnant, cette campagne contre Dominique Baudis. À l'époque, il dirigeait Le Monde. Mais j'étais honteux pour la presse. C'était honteux tout ça, parce que il y avait des informations qui étaient données par un policier et un magistrat. Tout le monde savait, on connaît les noms. Et que aucun de ces journalistes ne vérifiait. Ils prenaient pour argent comptant. Moi, si vous voulez, je suis pas... Dans ce métier, il y a plusieurs façons de faire le métier. Moi, j'ai toujours aimé le rôle de justicier, je l'ai fait. Il y a aussi le rôle de redresseur de tort. J'aime bien les deux rôles. Mais j'ai pas de problème personnel avec lui.
L'affaire Bettencourt, mais oui, les passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla, l'affaire François de Rugy, ils ont fait leur boulot là, non? Tout simplement.
Vous rigolez. Ils ont fait leur boulot sur un certain nombre de choses, bien entendu, sur l'affaire Cahuzac. Ils ont pris un risque parce qu'ils n'avaient pas les éléments. Et ils sont tombés juste. Tant mieux pour eux. Et c'est vrai que c'était une grosse affaire. Attendez. Plenel, il a révélé des choses. Bon, la troisième équipe, son premier truc sur Greenpeace, je vous signale, c'était faux. C'est avéré que c'était complètement faux. Bon, je suis arrivé après et je voyais bien que tout ça était presque une invention. Bon, il y a beaucoup de choses aussi à côté qui sont très approximatives. Et si vous voulez, moi, ce que j'aime pas, c'est très simple, c'est les injonctions. L'idée que le journalisme aujourd'hui, ça devient, on a une liste, il y a les bons et les méchants. Gentil Hulot, méchant tapis. Moi, je suis pour... pas la nuance, pire que ça. Moi, je suis pour la contradiction. J'ai été élevé là-dedans, d'ailleurs. J'ai appris ça de Jean Daniel. Quand j'étais au Nouvel Observateur, Jean Daniel était hystérique, je me souviens très bien. Un de mes premiers papiers, j'étais allé faire un conflit social. Je sais pas où c'était, du côté d'Angers. D'Angers, je crois, par là. Et je reviens avec l'article, et il me dit, bon, alors, vous avez vu qui? Vous avez vu les syndicats, bien entendu? Oui, j'ai déjeuné avec eux. Et vous avez le patron? Ah oui, j'ai vu. Ah bah, c'est génial. Ah ben c'est la première fois que je vois ça. J'ai presque, à la limite, ils m'ont bouché tout de suite. Pourquoi ? Parce que quand il y a un problème, quand on traite un sujet d'actualité, il faut avoir les deux parties. Mais c'est tellement évident. Et c'est ça, si vous voulez, qu'on est en train de perdre. Avec l'idée que tous les journalistes doivent s'aligner sur la même ligne. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis dans la diversité, dans la confrontation. Et c'est ça que j'aime dans ce métier.
Mais comment parce vous trouvez le paysage médiatique aujourd'hui à un an de l'élection présidentielle ? Comment vous trouvez, vous qui avez couvert tellement de présidentielles par le passé, comment vous trouvez l'ambiance aujourd'hui ?
Moi, je vais vous dire, alors, le fond de ma pensée, c'est, je suis dans une radio, je dis ça, mais c'est vrai que moi, je suis un amoureux fou de la presse écrite. Et je pense qu'elle peut revenir. Et j'espère qu'elle va revenir pour le pays et pour l'information. Alors attendez, la radio, c'est un grand média, la télé aussi, je suis pas en train de dire, c'est mieux que les autres. Mais je pense qu'on a beaucoup perdu avec la baisse, enfin, je peux dire pas la chute, parce que c'est pas ça, il y a quand même des journaux qui se battent, des journaux qui reviennent. Je suis fasciné de voir ça. Et de tous les bords politiques. Et c'est bien. Alors, c'est un autre modèle, ce sont des modèles maintenant où on gagne beaucoup moins d'argent, mais je crois que c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé au fond, sur ce plan. Je pense qu'on ne peut que remonter, et je vais vous dire un truc. Moi, je pense qu'on va remonter.
Alain, au Standard, bonjour.
Oui, bonjour.
Je suis marseillais, voilà ce que vous nous dites.
Ouais.
Allez-y.
Et en plus, je pense que M. Bernard Tapie est victime de son succès. Mais par contre, il faut oublier une chose, que grâce à ce qu'il a fait à Marseille avec l'OM, 45% de l'ossature de l'équipe de France championne du monde en 98 était marseillaise.
Bien compris, Alain. Donc merci Bernard Tapie, c'est ça ce que vous lui dites.
Quelque part, oui, excusez-moi, et je crois que la Fédération française, quand ils ont voulu avoir la Coupe du Monde, qu'ils ont fait un football tout blanc en France, ils ont commencé à taper sur Bernard Tapie. Mmh. Parce que, malheureusement, on est obligé de passer par un peu de magouille pour gagner. Regardez les championnats étrangers, l'Espagne, l'Italie, etc.
Merci Alain pour cette question. François-Olivier Gisbert, elle n'est pas dans la même tonalité que celle qu'on vient de vous lire.
Oui, parce qu'il y a des gens qui l'aiment, hein. Notamment à Marseille, c'est très frappant. Moi, je vis à Marseille. Il y a beaucoup de comment dire, les gens demandent des nouvelles comme si c'était.
Maintenant, il y a plein de gens qui l'aiment.
Avant, il aurait été élu maire de Marseille facilement.
Bien sûr.
Mais c'est parce que cette ville, il lui a redonné de l'espoir. Vous savez, c'est ça aussi, Tapie. C'est il donne du rêve. Il a donné du rêve.
Il vend du rêve
aux gens. Non, il donne. Il donne, parce qu'il vend pas. Il donne. Il est du rêve. C'est-à-dire, bon, voilà, regardez, moi, je suis le petit gars de, c'est Gavroche, hein, il vient toujours de sa banlieue, de son 93. Et puis, il donne des leçons à tout le monde, il parle à tout le monde. Voilà. Et quand Mitterrand décide, à un moment donné, d'en faire un ministre, et peut-être autre chose, parce que Mitterrand le regarde avec beaucoup d'intérêt. Et puis, il est un peu déçu par ses Jospin, ses Fabius, etc. Il dit, celui-là, il a quand même du charisme. Bon, Parti Socialiste, ça peut pas le faire, mais peut-être il peut faire un truc de centre-gauche. Il répond à Mitterrand. C'est-à-dire, il est pas d'accord. Mitterrand lui dit, mais pourquoi vous traiter les électeurs de Front National de salopards, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, faut essayer de les séduire. Et il dit mais non, c'est comme ça, je sens comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et ça c'est juste incroyable quoi.
Ouais, ouais. Comment Bernard Tapie a trouvé votre livre? Il vous a remercié ou il vous a insulté?
C'est joker. C'est compliqué parce que.
Pourquoi c'est compliqué?
Parce que bah moi je l'aime.
Parce qu'il dit les choses.
Je l'aime.
Il faut lui reconnaître ça. Quand il est pas content, il envoie un texto. Bah, quand il est content, il envoie un texto.
Dans le livre, il y a une phrase qui est de Tapie, qui m'a dite, quand je lui ai donné, parce que le deal était qu'il lisait tous les guillemets, toutes les citations, je ne vais pas m'emmerder à sortir les citations, j'envoie le bouquin tel quel, puis j'assume. Et c'est vrai qu'il a arrêté au bout de la page 3 ou 4 en me disant « je ne peux pas continuer, ça me donne envie de vomir ». Bon. C'est sûr que il voit bien aussi autour de lui que ça, c'est un livre qui ne lui fait pas du mal.
Oui, c'est
bien
pas,
au contraire.
C'est une agiographie.
Bien au contraire. Pardon ?
C'est une agiographie, c'est une biographie.
Là, vous êtes un peu méchante parce que je
non,
pense que c'est...
Il y a de tout,
je pense que c'est littéraire. Moi, je pense que
j'ai pris... Absolument, mais c'est pour ça qu'on vous a invité, littéraire. Parce qu'on a pris plaisir
pris
à lire.
Oui, c'est ça, j'ai pris un parti pris littéraire. J'ai pas voulu... Et quand vous prenez un parti pris littéraire, forcément, vous mettez toujours en danger la personne sur laquelle vous écrivez, parce que parfois vous allez trop loin, vous racontez des trucs, vous voyez ce que
sur
je veux dire.
Sur qui vous allez écrire images. Maintenant, François-Olivier Gisbert? Il reste des personnages hors normes aujourd'hui, comme Tapie, comme d'autres, ou de moins en moins?
Pour l'instant, je suis vraiment sur tellement d'autres projets, des romans, mais il y a toujours quelqu'un qui me fascine, et de toute façon c'est un livre qui va sortir à la rentrée. Il y a quelqu'un qui me fascine énormément, c'est le général de Gaulle. Plus ça va, plus je plus
dans
ce
les,
personnage
dans les vivants.
Et dans les vivants, ça serait bien qu'il y ait un général de Gaulle, vous croyez pas, ouais. Non. Hein, moi, je crois qu'on a besoin du général de Gaulle. La France a besoin d'un général de Gaulle.
Merci, Franz-Olivier Gisbert. On était très contents de vous recevoir dans le 7-9 aujourd'hui. On vous aime bien, même
moi
si
aussi.
Parfois vous ne nous le rendez pas. Hein.
Oh, de temps en temps, comme
dans
ça, mais vous savez.
Mais
regardez le mal que. Oui, mais regardez le mal que j'écris sur moi-même. Alors,
mais
même
oui,
les gens que j'aime bien.
C'est vrai que ça pourrait
vous
être pire, c'est ça ce que vous nous dites.
Dans le bouquin, mais on ne peut pas dire, je me présente toujours sous le meilleur jour.
C'est vrai.
Donc, voilà, je suis comme ça.
Merci d'avoir été là, en tout cas.
Je n'ai pas la plume servile.
Merci beaucoup. 8h47.